Nous allons poursuivre notre étude qu'on a commencée dimanche dernier. Et rappelez-vous, j'ai eu l'occasion de partager sur le premier commandement la semaine dernière. Et je vous avais dit que parfois, devant le monde que nous scrutons, que nous regardons, dans lequel nous vivons, on se pose la question et de se dire comment allons-nous tenir, comment faire face aux tentations, aux oppositions, à cet esprit contraire à l'Évangile. Et je vous avais dit qu'il était important de revenir à des fondamentaux, et rien de plus fondamental que de parler des 10 commandements, et surtout de ce que ça sous-entend derrière. Donc, la semaine dernière, on a parlé de ce premier commandement, et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième, que j'aimerais lire avec vous. Je rappelle que les 10 commandements, il y a deux parties. Il y a d'abord les 4 premiers commandements qui traitent de notre relation avec Dieu, et puis les 6 autres commandements qui parlent de la relation avec les autres. Et il est impossible d'appliquer de toute façon la loi et les 10 commandements particuliers de façon parfaite, on le sait, mais en tous les cas, il est nécessaire, primordial, indispensable, d'évaluer notre relation avec Dieu avant de pouvoir avoir une relation correcte avec les autres. Et c'est pour ça que les 4 premiers commandements sont mentionnés avant les 6 autres. Notre relation avec Dieu va évidemment engendrer des relations particulières avec nos semblables. Même si on ne s'en rend pas compte, à partir du moment où nous avons une relation avec le Dieu vivant, la relation avec l'image du Dieu vivant que sont les êtres humains autour de nous, ces relations vont changer. Puisque la relation avec celui qui a créé l'image de Dieu autour de nous va changer, va se fortifier, il va y avoir une unité. Plus nous sommes un avec Dieu, plus on peut être un avec les autres, qu'ils soient pécheurs ou qu'ils soient entre guillemets parfaits. En tous les cas, ça a une incidence, des conséquences. Donc le deuxième commandement, c'est Exode chapitre 20, verset 4, où il est écrit « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. » Donc on voit les 3 niveaux possibles dans la création. La mer et tout ce qu'elle contient, la terre et le ciel. Rien dans la création ne peut être comparé à Dieu, donc il est interdit de se faire une image de Dieu à travers différents objets. Mais avant de poursuivre, j'aimerais lire aussi un autre verset. Vous allez vous poser la question, et d'ailleurs j'en profite pour vous demander d'être très concentré pour bien suivre l'idée que j'aimerais communiquer à partir de ce deuxième commandement. Parce que je vais un petit peu aller plus loin, et vous allez voir qu'entre ce que je vais dire plus tard et le deuxième commandement, il y a un lien et des conséquences pratiques concernant notre vie avec Dieu. Et donc le deuxième passage que j'aimerais que nous lisions est dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. Il est écrit ceci. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ce qui est intéressant dans ce verset, on va revenir au deuxième commandement dans un instant, mais nous voyons que Paul précise qu'une chose, quand il dit que le Dieu nous sanctifie tout entier, ce tout entier referme l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que le bonheur d'un individu, la joie de vivre, l'espérance, le sens à notre existence est déterminé par l'harmonie qu'il peut y avoir entre l'esprit, l'âme et le corps. S'il n'y a pas cette harmonie, il est impossible de vivre dans la plénitude de l'esprit, de vivre en conformité avec Dieu, mais aussi en conformité avec l'aspiration que l'on a de toucher aux choses éternelles. Alors, au niveau de la théologie, il y a un débat de savoir si l'homme est en 2 ou en 3 parties. Moi, je crois personnellement que nous sommes en 3 parties, puisque ce verset nous le montre, esprit, âme et corps. En réalité, ceux qui pensent que l'homme est en 2 parties, c'est-à-dire uniquement l'âme et le corps, disent en fait un peu la même chose, parce qu'ils disent que dans l'âme, il y a 2 parties, il y a l'âme et l'esprit. Donc en fait, ça revient au même, ça veut dire qu'il y a quand même 2 endroits séparés dans l'âme. Moi, je crois que Paul utilise l'âme, le mot âme et esprit de façon distincte dans ce verset. Dans d'autres versets, l'âme, le mot âme, peut parler de l'être invisible de l'être humain, donc c'est-à-dire et l'esprit et l'âme. Donc parfois l'âme parle est en opposition au corps. Donc dans ce sens-là, l'âme, en effet, peut parler de des deux aspects de notre être immatériel. Mais en réalité, il y a trois parties. Pourquoi ? Parce que bon, le corps, ça paraît simple, hein, nous sommes faits d'éléments matériels. Nous savons aussi qu'il y a des choses invisibles dans les âmes vivantes que sont les êtres que nous sommes, mais aussi les animaux. C'est-à-dire que nous avons une volonté, nous avons des émotions, des sentiments. Nous manifestons par exemple l'amour. Comment on peut prouver ou montrer l'amour ? On peut en faire une... comment dire ? Il y a des signes de l'amour, mais l'amour lui-même, on peut pas le voir. Il n'y a que moi qui sais que j'aime ou j'aime pas quelqu'un. Il n'y a que moi qui le ressens. Donc, c'est quelque chose d'invisible. Je peux cacher l'amour que j'ai pour quelqu'un comme je peux cacher ma haine que je peux avoir pour quelqu'un. Et ça ne se verra pas dans mon corps, que ce soit par ma bouche, par mon attitude et par mes actions. Donc, la vérité vraie s'agissant de certaines choses, c'est dans la partie immatérielle de notre être. Puis il y a l'esprit qui, lui, a été éteint à partir de la chute et qui peut être régénéré, vivifié, mis en action lorsqu'on se convertit, à savoir que l'esprit de l'homme peut enfin et de nouveau être en contact avec l'esprit de Dieu. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme animal utilise uniquement son âme et non pas l'esprit. Les âmes vivantes que sont les animaux ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit selon ce que les Écritures nous enseignent. Et ce qui fait que, d'après ce que l'on voit, les animaux, même s'ils peuvent peut-être avoir une notion du Créateur, mais ils ne sont pas à l'image du Créateur et n'ont pas d'esprit en eux pour avoir une communion, une relation intime et personnelle. Et de la même manière d'ailleurs que lorsque je vois une biche, je sais que la biche existe, mais je peux pas être en communion avec elle parce que je ne suis pas une biche. Donc j'ai une idée un petit peu, mais un peu anthropomorphique de ce que l'animal peut être, parce que moi je suis un homme, donc je suis obligé d'attribuer à une biche des éléments humains. Et inversement, j'imagine que la biche, elle pense comme une biche quand elle voit un être humain. Et l'homme naturel qui n'a pas été régénéré, l'homme animal, selon certaines traductions, n'a pas accès à l'esprit de Dieu parce que son esprit n'a pas été régénéré. Et il faut que l'esprit soit vivifié pour être en contact avec le Saint-Esprit. L'esprit parle à l'esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas à l'âme. Le Saint-Esprit parle à l'esprit qui est en nous. Et donc, lorsqu'on s'est converti, nous avons accès à Dieu. Et ce point est important parce que, et c'est là où on va faire un peu de théologie aujourd'hui, c'est lorsque Dieu nous parle du fait qu'il est interdit d'écrire des statues, d'utiliser des éléments matériels pour en faire l'image de Dieu, c'est parce que ça préserve l'indistinction entre Dieu lui-même et sa création. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas être comparé ou évalué à partir des éléments de la création. C'est impossible. Dieu est au-delà de la création. C'est inimaginable, pour le dire autrement. Pour vous donner une idée, imaginons que nous soyons dans un monde en deux dimensions. Ça, c'est difficile à imaginer parce que nous, on est dans un monde en trois dimensions. Mais imaginons que nous soyons dans un monde en deux dimensions. Là, les éléments se déplaceraient uniquement sur une surface plane. Et à un moment donné, quand il y a deux objets qui se rencontreraient, ils ne pourraient pas passer l'un au-dessus de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas trois dimensions, c'est impossible. Donc ça serait, au niveau du concept, ce ne serait pas possible pour des animaux en deux dimensions, par exemple, dans un monde en deux dimensions, on pourrait se déplacer que sur une surface plane. On ne pourrait pas penser sauter. Puisque ça ne ferait pas partie de notre imaginaire, les trois dimensions n'existeraient pas. C'est la même chose s'agissant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est au-delà de notre imagination, il est au-delà de la création, il est au-delà de ce que nous sommes. On ne peut pas rencontrer Dieu d'une certaine manière, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'imaginer. Et donc Dieu interdit la moindre représentation de lui-même à travers un objet, parce que tout ce que nous pourrions faire serait faux en réalité. un peu comme si quelqu'un vous proposait de peindre votre portrait, et puis vous regarde bien là pendant 3-4 heures, il fait le dessin et tout, puis quand il vous montre, vous faites « Ah, c'est pas moi ça !» D'accord ? Donc vous c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que représenter Dieu d'une manière ou d'une autre, c'est impossible et donc interdit. Donc Dieu ne ressemble pas à un poisson, il ressemble pas à un reptile, il ressemble pas à une vache, il ressemble pas... Et pourtant, combien de fois il y a eu des représentations qui ont été faites parce que le deuxième commandement est mis de côté de par le monde depuis la chute. Alors, d'un côté pratique, c'est un peu la même chose pour nous au niveau de la théologie, par exemple. Lorsqu'il est dit que Dieu est amour, bien entendu, c'est vrai, Dieu est amour, mais il n'est pas que amour. Je ne peux pas représenter Dieu uniquement au travers de l'amour. Parce que représenter Dieu uniquement au travers de l'amour, c'est une mauvaise explication, une manifestation de Dieu. Je suis obligé de le représenter avec sa justice, avec sa sainteté, avec sa fidélité, avec sa puissance, son intelligence. C'est pour ça que le problème, quand il y a des hérésies qui naissent, les hérésies ne sont pas uniquement des mensonges, je dirais, positifs ou évidents. Parfois, une hérésie peut être un mensonge négatif, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de certains aspects de Dieu. Et du coup, ça déforme la représentation de Dieu. Si je dis que Dieu est amour, sans jamais parler de sa sainteté et de sa justice, je fais un Dieu à mon image ou selon le concept que j'ai de Dieu. Alors vous allez me dire, comment faire ? Ben, c'est une quête, et c'est ce que nous faisons encore cet après-midi, c'est une quête permanente, c'est-à-dire grâce à la parole de Dieu, nous essayons, autant que faire se peut, d'avoir une représentation invisible de la personne de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons, à ce moment-là, avoir l'objectivité. Mais toute la parole de Dieu, ça m'amènera d'ailleurs sans doute la semaine prochaine à parler d'un sujet important qui est l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que si le tout n'y est pas, on vit un christianisme déformé, bancal. Et donc c'est important de comprendre ça. Et j'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure Eric dans son introduction, où il parlait de l'unité, préserver l'unité au travers de l'humilité, la patience et la douceur. Mais l'unité avec Dieu, elle se fait aussi au travers de l'humilité. C'est-à-dire que j'ai l'humilité de me placer sous toute la parole de Dieu et ne pas être présomptueux dans un domaine ou dans un autre. Ça demande de la patience, c'est-à-dire que tout au long de notre vie, on va devoir étudier la parole de Dieu, on va devoir la lire, la méditer, pour justement avoir cette représentation la plus objective possible d'un Dieu qu'on ne peut voir. Et puis aussi, on va avoir la douceur, c'est-à-dire ne pas se rebeller quand on comprend pas parfois. Tout comme Job, par exemple, va devoir accepter ce qui lui arrive, alors que dans un premier temps, il est évidemment, on peut le comprendre humainement, désemparé. Donc on ne peut pas réduire Dieu à un aspect ou à un point de son caractère. Et que s'agissant de la volonté de Dieu, c'est la même chose d'ailleurs. Je ne peux pas, d'une certaine manière, dire que je marche dans la volonté de Dieu si j'associe la volonté de Dieu à l'obéissance à un seul point de ce qu'il me demande. Par exemple, Dieu me demande d'aller à l'église le dimanche, j'obéis à ça, donc je marche avec Dieu. Ça, c'est une représentation très limitée de sa volonté. Parce que peut-être qu'il veut que je me comporte de telle ou telle manière au travail, dans mon couple, dans ma famille, dans ma façon de penser, dans mes loisirs, dans mon emploi du temps, dans les choix de vie que je vais faire. Et vivre de toute parole de Dieu sous-entend ensuite une humilité où par la foi, nous acceptons de marcher dans toute la volonté de Dieu autant que faire se peut. Ce qui nous amène d'ailleurs, entre parenthèses, à confesser beaucoup plus de péchés. Parce qu'on s'aperçoit que la volonté de Dieu est dure, d'accord, à appliquer dans ces cas-là, quand il y a cette exigence. Mais cette exigence est nécessaire pour pouvoir grandir. Lorsqu'on commence à réduire Dieu à un seul élément, par exemple, s'agissant de la volonté de Dieu pour notre vie, à un seul élément de cette volonté, on grandit plus. Parce qu'on arrive à faire quelque chose, on se tient à ce qu'on arrive à faire, et du coup, notre Dieu est à l'image de nous-mêmes. Et voilà, ça y est, je suis en communion avec Dieu, c'est ça la vérité. Et en réalité, on est toujours en train, quelque part, de perdre pied avec Dieu. On doit toujours être dans une situation où on est désemparé. J'aime beaucoup dans les évangiles voir les apôtres, ils sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ils comprennent toujours pas Jésus-Christ. D'accord? Ils sont toujours à côté de la plaque, et c'est bon. Et ça fait pas d'eux des gens que Dieu rejette, L'humilité qu'ils ont eue, ça a été de se remettre en question en permanence et de suivre Dieu jusqu'à la fin de leur existence, en réalité. Voyez, mais ça ne veut pas dire pour autant que Jésus va dire « Bon, allez, il obéit quand même dans certains domaines par rapport à d'autres, il est mieux que les autres, je vais le laisser tranquille. » Non, 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 non. C'est un peu comme si un entraîneur dans une équipe de foot en première division disait « Bon, lui, là, il a mal joué aujourd'hui, mais bon, par rapport à un club amateur, il joue bien, donc je vais rien lui dire. » Non, l'entraîneur, il place la barre un peu plus haut. Vous voyez, il nous fait jouer au-delà de nous-mêmes. Et ben, c'est exactement la même chose avec Dieu, ça s'appelle le processus de sanctification. Donc c'est cette radicalité que nous avons besoin de vivre. Rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière concernant le premier commandement, mais c'est la même chose s'agissant du deuxième. En théologie, par exemple, il y a des débats sans fin depuis des siècles, hein, savoir qui a raison entre ceux qui croient dans l'élection et la prédestination, et ceux qui croient dans le libre arbitre de l'être humain. Qui a raison? Est-ce que c'est l'homme qui choisit, ou est-ce que Dieu choisit? Ben, si vous choisissez l'une des deux options, vous réduisez Dieu. En réalité, il y a les deux dans la Bible. Et Dieu, c'est comme s'il était en train de nous dire, débrouillez-vous avec ça. C'est, moi je vous ai choisi, mais en même temps, je vous tiens responsable de ne pas choisir. Et si je devais transposer de façon pratique, Jésus par exemple, lorsqu'il était sur la terre, alors c'est vrai qu'il vivait dans son humanité, il vivait pas selon... Il était Dieu, mais il n'utilisait pas tous ses attributs divins. Néanmoins, pour vous faire comprendre un peu l'idée, c'est que lorsque Jésus marchait, et à un moment donné, il discutait avec quelqu'un, il choisissait de discuter avec telle ou telle personne. Et il le dit d'ailleurs aux apôtres, il dit « c'est moi qui vous ai choisi ». Mais lorsqu'il discutait avec telle ou telle personne, il suscitait le libre arbitre de son vis-à-vis pour que la personne croie, pour que la personne bénéficie de ce que lui avait choisi de lui donner. Et ça faisait une rencontre entre Dieu et l'homme. Donc on ne peut pas expliquer. Mais toujours est-il, c'est que Dieu est Dieu, il est souverain. Il fait ce qu'il veut, tout comme Jésus faisait ce qu'il voulait. Enfin, il faisait ce que le Père lui montrait de faire, mais Dieu faisait ce qu'il voulait au travers de Jésus-Christ. Et en même temps, il tenait pour responsable ceux qui étaient en face de lui de dire amen à ses discours, de croire qu'il pouvait guérir, de croire qu'il était le Messie. Donc vous aviez dans un moment de l'histoire de l'humanité, sur la terre, une rencontre entre la souveraineté et l'élection de Dieu et en même temps la responsabilité des individus. Et d'un autre côté, vous aviez les pharisiens qui eux disaient nous on n'y croit pas. Et Dieu les tenait pour responsables. Donc en permanence, si on essaye de comprendre Dieu uniquement avec notre intelligence, elle est nécessaire pour lire, pour étudier, pour avancer, pour réfléchir, pour prier, pour prendre des décisions, on a besoin de notre intelligence. Mais ça ne suffit pas pour comprendre Dieu. Il y a quelque chose de transcendant, il y a autre chose avec Dieu, quelque chose de mystérieux qui fait que quelqu'un de simple, comme dit Jésus, pourra marcher avec Dieu, être rempli du Saint-Esprit, alors que quelqu'un de compliqué, de plus intelligent, plus admiré par ses semblables, peut passer complètement à côté de la volonté de Dieu. Parce que ça va au-delà des capacités humaines. Et donc, il est interdit de faire des idoles. Alors, c'est intéressant, le mot en hébreu, c'est pezel, ça veut dire tailler dans le bois ou dans de la pierre, et ça vient en fait du mot sculpter. Et combien d'êtres humains, au travers de la religion, de la superstition, sculptent leur propre Dieu en réalité? Voyez? Mais en tant que chrétien, on peut être un peu pareil. Au bout d'un moment, que ça soit dans une dénomination, dans une union d'église, dans un parcours de vie, il y a peut-être des éléments qui sont véridiques dans ce que nous avons expérimenté et ce que nous vivons encore, mais c'est peut-être ajouter des petites sculptures. Hein, on a sculpté notre christianisme. Et du coup, on passe à côté de quelque chose de beaucoup plus grand avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de se remettre en question de temps en temps, si ce n'est tout le temps. Et une des raisons pour lesquelles Dieu interdit les idoles et notamment les statues, etc., c'est que non seulement on ne peut pas, par une statue, expliquer Dieu ou le décrire, mais aussi ça nous interdit de maîtriser Dieu. Parce que lorsqu'on sculpte nous-mêmes, on maîtrise. Lorsque telle religion, sans être régénérée, sans être née nouveau, nous plaît, ou parce que dans notre éducation, elle nous a été inculquée, eh bien, on maîtrise je suis catholique, je suis musulman, je suis protestant, je suis bouddhiste. Je maîtrise, j'ai grandi là-dedans, et donc je me suis fait ma place au milieu de cette société qui croit en telle ou telle doctrine ou telle religion. Donc on maîtrise. Tous autant que nous sommes, on le sait très bien, quand il a fallu qu'à un moment donné on place notre confiance en Dieu, on ne maîtrisait plus rien. D'accord ? Ça allait au-delà de nos concepts. Là, je suis en train de lire un livre, c'est juste une anecdote et aussi un encouragement et un témoignage pour montrer que Dieu agit. Je lisais dans le journal l'autre jour un débat entre qui avait été, je dirais, organisé par le journal lui-même entre deux écrivains français qui viennent d'écrire un livre chacun de leur côté. Et les deux romans, enfin il y en a un, c'est un roman autobiographique, ce sont deux romans qui racontent en fait des conversions. Alors, ce sont des conversions au catholicisme, mais donc je trouvais ça très intéressant de voir que deux écrivains français écrivaient des romans sur des conversions. Et donc je me le suis procuré, j'ai commencé un des deux, et je connaissais pas les auteurs. Hein, donc celui que je suis en train de lire, j'ai un peu fait des recherches sur l'auteur, et c'est encourageant. Vous allez comprendre pourquoi. Cet auteur donc a fait des études de journaliste, Sciences Po, etc. dans les années 80, je crois. Et il est devenu ensuite journaliste à Libération, qui, je pense pas, contient beaucoup de grenouilles de bénitier en son sein. Et puis il a écrit d'autres livres, notamment un livre en 2015 qui est sorti, qui était l'éloge de la masturbation au travers des siècles. Donc il fait tout un livre là-dessus. C'était son dernier livre en 2015, et depuis il s'est converti. Il a été touché par la grâce. D'ailleurs son roman s'appelle La Grâce. Et donc j'étais encouragé de voir Dieu parle, Dieu agit, et c'est intéressant parce que même les gens de son milieu initial reconnaissent que c'est un bon ouvrage, c'est un ouvrage qui a eu un prix. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, il le raconte, j'ai pas tout lu, hein, mais je peux vous dire un peu ce que j'ai lu déjà, c'est qu'à un moment donné, quand il est touché par la grâce à ce moment-là, il a une révélation de l'horizontalité et de la verticalité. C'est-à-dire de l'unité qu'il y a entre la vie qu'il est en train de vivre sur cette terre et la transcendance de Dieu, et il réalise que c'est par Jésus-Christ que ça a été fait. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le seul qui peut représenter Dieu, visiblement, même dans la chair. C'est le seul. C'est le seul qui, esprit, âme et corps, peut montrer qui est Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire à ses disciples, mais je suis avec vous depuis si longtemps et vous n'avez pas vu le Père. C'est-à-dire que par Jésus-Christ, Dieu, le Père, a trouvé la solution qui était impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se représenter Dieu, ça nous est interdit même. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu est au-delà de la création. Mais lorsque Jésus-Christ est venu dans la création, ce qui est transcendant est devenu visible. Et ce qui était visible était transcendant. Et d'ailleurs, c'est important de revoir certains mots, parce que quand on parle, vous savez, du deuxième commandement, où il est interdit de faire une représentation, c'est aussi parce que quand vous faites une statue quelque part, elle est là, elle n'est pas ailleurs, par définition. Or, Dieu est omniprésent. Il est partout. Donc, ça n'a pas de sens qu'on puisse dire que Dieu est là. Et donc, Dieu, comme il est spirituel, il n'y a pas de représentation matérielle possible, sauf par Jésus-Christ. Sauf par Jésus-Christ. C'est le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que l'incarnation a réduit cette équation impossible à résoudre. Mais Dieu l'a résolue. Non seulement un Dieu saint ne peut pas être en contact avec le pécheur, ça non plus c'est pas possible, mais en Jésus-Christ, Dieu a trouvé la solution, mais aussi c'est même dans notre compréhension de Dieu. Dieu, il est distinct de toute la création. On ne peut pas le comparer, on ne peut pas le réduire à notre intelligence. Et c'est pour ça qu'à la femme au puits, en Jean 4, rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme, au verset 23 et 24. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, parce que rappelez-vous le sujet, c'est nous on adore sur la montagne, les juifs adorent à Jérusalem, donc c'était quelque chose de tangible. C'était un lieu particulier. Mais il dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que quand je vous ai lu un Thessalonicien tout à l'heure, quand il est parlé de l'épanouissement de l'être tout entier, que Dieu nous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps, c'est possible parce que maintenant nous avons accès au Père grâce au ministère de Jésus-Christ et à son incarnation. Et donc aujourd'hui, je peux toucher du doigt la transcendance de Dieu. Et d'ailleurs, vous comme moi, lorsqu'on témoigne de ce que nous vivons avec Dieu, je ne parle pas d'une réponse aux prières et tout ça, là je parle du monde tangible. Quelqu'un est malade, il est guéri, ça se voit, qu'on soit croyant ou pas. Mais c'est très difficile de dire avec nos mots ce qu'on a vécu avec Dieu il y a quelques minutes parce qu'on était en communion avec lui dans la prière ou parce que Dieu nous a touchés particulièrement. On le fait, mais ça n'a pas de poids par rapport à ce qu'on a vécu. Ça n'a rien à voir. Tout comme Paul, lorsqu'il est monté au troisième ciel, il revient avec un discours hyper frustrant pour celui qui lit le texte, et je suis le premier. C'est super, mais je peux pas vous raconter parce qu'il n'y a pas de mots pour pouvoir expliquer ce que j'ai vu. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'être humain que nous sommes avons besoin de vivre ce qui est inexplicable, c'est-à-dire Dieu. Nous avons besoin de toucher du doigt cette transcendance. On ne peut pas être heureux si on s'occupe que de son âme et de son corps. Même dans notre religiosité et dans notre parcours chrétien, si je vois ma vie avec Dieu uniquement sur ce fondement, est-ce qu'il répond à mes prières, est-ce que demain j'ai un boulot, est-ce que j'aurai quelque chose dans mon assiette, est-ce que je vais être marié, est-ce que je suis content, est-ce que je suis heureux, c'est des choses qu'on peut demander à Dieu, il n'y a aucun souci. Mais ça touche uniquement le corps et l'âme dans un premier temps. Mais on a besoin de ce que j'appelle moi une relation gratuite. C'est qu'une relation dans l'esprit, je demande plus rien, et je reçois plus rien, je suis simplement avec lui. Tout comme avec quelqu'un que j'aime, je veux dire, je vais pas être là en disant, bon, est-ce que la relation est bonne? Il faut que le cadeau là, il faut d'abord qu'il y ait un cadeau à chaque fois, sinon la personne m'aime pas. Et puis il faut que ça soit d'un certain niveau, sinon la personne m'aime pas. Non. Quand on a une vraie relation d'amour avec quelqu'un, que ça soit dans le domaine de l'amitié, de l'amour dans un couple, de l'amour fraternel, c'est que l'amour suffit. C'est d'un niveau au-delà. Mais ça reste quand même dans l'âme, s'agissant des relations entre nous. Mais avec Dieu ou par Dieu, ça va au-delà. C'est « Seigneur, je suis bien dans ta présence. Je suis bien. » Tout comme un enfant qui a quelques semaines, il marche pas, il fait pas les courses, il ne lit pas, il écrit pas, il joue même pas, il est là, il est dépendant de ce qu'il porte, mais il est bien parce qu'il est dans les bras de sa mère ou de son père. Et pourtant, il peut rien faire d'autre, hein, mais il est dans les bons bras. Il est content, il est épanoui. Vous les mettez dans d'autres bras, ça va plus. Pourtant, il fait la même chose, hein, il est dans les bras. Et c'est la même chose dans notre vie avec Dieu. Quand je suis pas avec Dieu, ça va pas. J'ai besoin de cette relation avec le Père. Et c'est pour ça que Dieu, parfois, nous enlève tout ce qui est matériel, il nous enlève tout ce qui est du domaine de l'âme pour dire, hey, Coco, c'est ton esprit que je veux. Je veux une communion dans l'esprit. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que Dieu a fait pour nous. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et des fois, alors on a des problèmes dans la vie qui sont ce qu'ils sont. Et il faut, avec Dieu, ou en tout cas, il faut les résoudre. Mais tant qu'on n'aura pas compris que notre épanouissement spirituel, ou l'épanouissement en général d'ailleurs, passe par un épanouissement spirituel dans l'esprit, où j'ai besoin de cette relation avec Dieu, et du coup j'ai besoin d'obéir à ses commandements, et notamment le deuxième, c'est que je ne dois pas me faire une représentation maîtrisable de Dieu, où je maîtrise, tout comme ceux qui adorent les idoles, ils maîtrisent, hein, l'idole est comme ça, elle est là, je sais ce qu'il faut faire, et dans le christianisme ça peut être la même chose, hein. Je veux dire, oui Dieu est là, si la louange est à la première partie du culte, si on s'assoit et on se lève à tel moment, s'il y a le témoignage à ce moment-là, donc si j'ai mes repères, Dieu parle, par contre les gens font autrement, je ne sais pas si c'est spirituel. Combien de gens évaluent la spiritualité en fonction de ce qu'ils voient, alors qu'en réalité ça va au-delà, c'est une transcendance. Je rappelle que Dieu est partout, donc il n'est pas un endroit, il n'est pas un endroit avec une statue en particulier, mais et on appelle ça l'omniprésence, c'est-à-dire que Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est... moi, je suis pas omniprésent, je suis présent d'abord là où je suis, par définition. Je suis un peu présent à l'autre bout de la salle. Quand je dis un peu présent, c'est que je vois en partie ce qui s'y passe. Donc, d'une certaine manière, je suis présent. Je suis témoin. Et puis, après, au-delà d'une certaine distance, là, je suis complètement absent. C'est fini. Dieu, lui, il est présent de la même manière partout. Comme moi, quand j'y pense, c'est quelque chose qui me fascine. Parce que dans une pièce comme celle-là, comment Dieu voit les choses? Alors, je pourrais dire, si je suis un peu orgueilleux, il les voit avec mes yeux. Mais je sais que c'est pas vrai. Alors je peux me dire, il y a peut-être, j'imagine qu'il voit les choses d'ici. Oui, mais on peut diviser les ici. Il y a combien de ici entre ce point-là et ce point-là? Une infinité d'ici. C'est comme s'il y avait une infinité de caméras. Et puis il y a ici, mais un peu avant. Et là, il y a une infinité aussi. Et puis, à partir de quelle taille? Est-ce que c'est un géant de 5 mètres? Ou est-ce qu'il voit à partir d'un atome, comme un atome regarderait le monde? Là, ça commence, hein? Ça, c'est Dieu qui est omniprésent. Et je ne vous parle que de cette salle. C'est-à-dire que Dieu voit tout. Il est en train de voir s'il y a une tumeur qui pousse, il est en train de voir s'il y a un microbe qui est combattu par mes anticorps, il est en train de voir ce qui m'attend dans 2 heures. Il voit tout. Ça, c'est l'omniprésence de Dieu. Mais, et vous allez voir qu'il faut suivre là, l'omniprésence, il y a 2 parties. Il y a l'immanence et la transcendance. L'immanence, c'est la représentation de Dieu visible. C'est-à-dire que Dieu peut se manifester. Les agnostiques, par exemple, ou les déistes, ne croient pas dans l'immanence. Ils croient dans la transcendance, que Dieu ne peut pas être comparé à la création, donc il est dans un autre ailleurs, et nous, on se débrouille. D'accord? Donc, ils ne pensent pas à l'immanence de Dieu. Donc, l'immanence, c'est que Dieu est présent partout dans le monde. Dieu n'est pas uniquement en dehors de la création, et puis il la regarderait de loin. Non, il peut, d'une certaine manière, y rentrer. Il est là. Mais nous ne sommes pas panthéistes. Le panthéisme, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, tout est Dieu. Ça, c'est Dieu, moi je suis Dieu, le bois est Dieu, la création est Dieu. Mais la seule chose, c'est que s'il n'y avait plus de création, alors à ce moment-là, où serait Dieu? Il n'existerait plus. Donc le panthéisme associe Dieu à la création, d'une mauvaise manière, mais surtout limite Dieu, puisqu'il limite Dieu à la création. Or, Dieu n'a pas besoin de la création. C'est-à-dire qu'il existait avant que le monde soit, et s'il décidait de tout détruire, qu'il n'y ait plus rien, et quand je dis rien, c'est rien. C'est même pas de la distance. C'est même pas du noir ou du blanc, c'est rien. Ça aussi, on peut pas comprendre. Rien. Eh ben, quand il n'y a plus rien, il reste Dieu quand même. Vous voyez? Donc, on n'est pas panthéiste. Pourquoi? Parce que les panthéistes associent Dieu à la création, et si la création n'existe plus, Dieu n'existe plus. Et donc Dieu serait dépendant de la création. Or Dieu n'est dépendant de rien. C'est pour ça que quand vous vous rappelez ce savant handicapé qui est mort il n'y a pas longtemps, là, qui était très athée, attaquait l'argument ontologique et théologique en disant, parce que ces arguments d'apologétique, c'est de dire que si tout ce qui a un début a une cause, du coup Dieu existe. Parce que si la création a eu un début, s'il a bien fallu que quelqu'un crée la chose, et donc s'il y a quelqu'un qui a créé la chose, il y avait une nécessité, donc s'il y a une nécessité, Dieu existe. Et lui, il disait, oui, mais alors à ce moment-là, qui a créé Dieu? Oui, non, mais attendez, il nous prend pour des idiots, là. Parce que là, cet argument apologétique, c'est justement tout ce qui a un début a une cause. Mais Dieu n'a pas de début. Et du coup, l'objection ne vaut plus. Et c'est ça la transcendance. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de début, donc il n'y a pas forcément une cause à Dieu, puisqu'il n'y a pas de début. C'est. C'est pour ça que Jésus a pu dire, avant qu'Abraham fût, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit « j'étais », il a dit « je suis », pour parler de l'intemporalité, de l'éternité. C'est que ça n'a rien à voir avec le passé, le présent et le futur. C'est pour ça qu'ils ont cherché à le lapider et à lui courir après. Et qu'ils ont voulu chercher à le crucifier après. Parce qu'ils ont bien compris que Jésus se prenait pour Dieu. Et il l'était d'ailleurs, c'est pas qu'il se prenait pour Dieu, mais il l'était. Donc l'immanence, c'est que Dieu est présent partout et il agit dans la création. Par exemple, la mer s'ouvre, la mer rouge s'ouvre, c'est un Dieu immanent qui se manifeste. Il y a un miracle, c'est l'immanence de Dieu. La création elle-même, c'est Dieu qui se manifeste. Donc c'est l'immanence. C'est pour ça d'ailleurs que l'incarnation a été possible, parce que l'incarnation de Jésus-Christ, c'est l'immanence totale. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté dans la création à la perfection, au plus haut point. Et donc Dieu est visible. Les prophéties aussi, ça montre que Dieu intervient, il y a une immanence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'ange de l'Éternel qui parle à Abraham, à Jacob. Donc du coup, ils ont bien vu quelque chose dans la création. Donc c'est, même si c'était un esprit, l'ange, mais l'ange, c'est pas peut-être pas matérialisé, mais il y a une représentation de quelque chose d'invisible, d'un esprit, et donc il y a eu une intervention. C'est pour ça que les agnostiques pensent que Dieu peut pas intervenir, il est au-delà, mais nous croyons que Dieu peut parler. Il y a ce qu'on appelle dans l'omniprésence de Dieu l'immanence. Mais il y a un autre aspect de l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu est partout et pas à un seul endroit, notamment là où il y a une statue qui a été érigée, c'est qu'il y a la transcendance. C'est-à-dire que, ok, Dieu intervient dans la création, c'est l'immanence, c'est possible, d'accord. Il n'y a plus la création où Dieu est. Eh ben, il reste présent. Je ne sais pas de quelle manière, parce que la présence de Dieu dans un espace où il n'y a plus d'espace, dans du temps où il n'y a plus de temps, ce n'est plus l'immanence, c'est une omniprésence dans la transcendance. C'est un peu comme si, par exemple, vous vouliez aller au pôle Nord. Comment vous faites pour aller au pôle Nord? Vous utilisez peut-être une boussole. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Et donc, le Nord vous est indiqué. Vous y allez, vous utilisez la boussole. Et puis, une fois que vous êtes arrivé au pôle Nord, il y a quelqu'un d'autre qui s'y trouve, et puis la personne qui est là dit « Montrez-moi le Nord. » Je peux plus, puisque je suis au pôle Nord. Je peux plus vous montrer le Nord. Nous y sommes. Donc la question n'a plus de sens. Eh ben, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous discutez avec des gens et qu'ils vous disent, lorsque l'argument, on parle de la théorie de la relativité d'Einstein, etc., et puis le Big Bang, et puis on dit oui, mais ok, il y a eu le Big Bang, mais avant. Si vous tombez sur un scientifique, il va vous tomber dessus parce que la question n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas parler d'un avant le Big Bang, puisque avant le Big Bang, le temps et l'espace n'existent pas. Donc la question, c'est comme si vous vous retrouviez au pôle Nord. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un autre concept que le avant. Vous ne pouvez plus utiliser le avant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça s'appelle la transcendance, encore une fois. Là, on s'aperçoit que pour avoir accès à Dieu, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... Il faut avoir l'humilité de dire que on est très limité par rapport à la compréhension de Dieu. Et que si on n'a pas un Dieu qui se révèle, qui transcende les choses, on ne connaîtrait rien. Et Dieu, par son amour, a transcendé les lois, quelles qu'elles soient, pour toucher quelque chose que je ne vois pas non plus en moi d'ailleurs, qui est mon être. C'est moi. Et je suis en paix. Son esprit me parle. J'ai un sens à mon existence. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je sais qu'au-delà de ce monde, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Dieu a pris soin de me parler. Et la transcendance, c'est de dire, je ne peux pas comparer un Dieu infini à un homme qui est fini. Je ne peux pas comparer un Dieu qui est sans péché à un homme qui a des péchés. Je ne peux pas comparer l'intelligence avec Dieu, parce que moi je peux me comparer avec vous ou avec d'autres. J'ai plus ou moins d'intelligence. Mais devant quelqu'un qui a une intelligence infinie, je ne sais pas si vous imaginez une intelligence infinie, et c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Psaume 147, verset 5, « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Imaginez, vous, nous avec nos limites, si on se projette dans l'éternité, on peut dire « oui, mais mon intelligence, elle peut grandir peut-être pour l'éternité ». Soit, mais ça veut dire que je vais être dans un système où je vais apprendre, je vais être en progression. Et j'arriverai jamais au bout, puisque l'intelligence peut être infinie. Et donc, ben voilà, j'ai de quoi faire. C'est pour ça qu'on s'ennuiera pas dans l'éternité, mes amis. On sera de plus en plus intelligent. Mais là, aujourd'hui où je vous parle, là, maintenant, Dieu a atteint quelque chose qui n'a pas de limite. Son intelligence est sans limite. Mais il ne progresse plus. Dieu n'est pas à l'école. Jamais il a été à l'école. Il est. Oh, ça, alors là, ça, je ne peux pas comprendre. Comme je ne peux pas comprendre l'éternité passée. Depuis quand existe, Seigneur ? Il n'est pas sénile, hein, il ne va pas me dire « je ne me rappelle pas ». Il va dire « le début n'existe pas ». Alors là, moi, je ne peux pas comprendre ça. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas de fin, mais qu'il n'y ait pas de début, c'est pas possible. Ben si, c'est possible, sinon c'est pas Dieu. Et ce Dieu-là, qui aurait autre chose à faire, a décidé de créer les cieux et la terre. Bon, ça, je veux bien comprendre, c'est grand. D'ailleurs, encore une fois, c'est grand par rapport à quoi ? L'univers, par rapport à moi. Par rapport à Dieu, c'est tout petit, l'univers. Oh, cette étoile est à des milliards d'années-lumière, tu te rends compte? Pour Dieu, il y est déjà. Il est omniprésent. Oh, c'est extraordinaire. Et ce Dieu-là, il a créé une planète avec un équilibre très particulier, parce que je ne vais pas faire le cours maintenant, mais pour qu'il y ait la vie sur la Terre, et la probabilité pour qu'il y ait la vie sur la Terre, je vous raconte pas. Et il crée l'homme en disant « et en plus, je vais le créer à mon image. » Ce Dieu-là, il le crée. Et une fois qu'il a fait ça, l'homme pêche. Et Dieu dit, ce Dieu transcendant, dit « je vais m'incarner, je vais mourir parce que je les aime. » Wow. Jésus-Christ a permis l'immanence de Dieu dans la création. Ce Dieu transcendant peut nous parler. Il est comme nous. Il n'a pas honte d'être appelé des frères. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. C'est autre chose qu'une pierre qu'on va adorer dans un désert en Arabie et qu'on va essayer de toucher. C'est autre chose qu'une statue qu'on va adorer ou toucher à Lourdes. C'est autre chose même qu'un lieu, quel qu'il soit. C'est un Dieu. Dieu. Et c'est pour ça que aujourd'hui, parce que grâce à l'incarnation de Dieu, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, pouvons, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, être en contact avec le Seigneur lui-même, il y a eu ce point de rencontre. Et je vais terminer là-dessus, c'est que Jésus-Christ a été l'immanence parfaite. Mais nous, parce que maintenant, nous sommes sanctifiés, de plus en plus, on peut l'espérer, esprit, âme et corps, on peut manifester un Dieu transcendant au travers de notre propre vie. Jésus-Christ en a été l'incarnation parfaite. Mais on ne pourra pas faire mieux. Et même, il n'y a que Jésus qui était sans péché. Mais maintenant, non seulement on peut adorer Dieu en esprit, en vérité, mais parce que notre esprit, notre âme et notre corps sont en harmonie, non seulement avec nous-mêmes, mais avec Dieu, nous pouvons maintenant manifester ce Dieu que les gens ne peuvent pas voir. Mais ils vont le voir par notre vie. C'est pour ça que quand on parle de l'appel de Dieu, on peut bien entendu, et c'est louable, normal, parler de la mission, parler de l'évangélisation, parler de prier pour les uns et les autres, servir l'Église. Mais tout ça, mes amis, c'est très réducteur. Ce n'est qu'une conséquence de quelque chose de bien plus grand. C'est de se dire, qui est Dieu ? Je ne sais pas tout, mais il me touche. Et ma vie n'est pas la même. Je ne vais pas mégoter sur certaines choses. J'accepte de tout abandonner s'il le faut. J'accepte de marcher par la foi. J'accepte de foncer. J'accepte de ne pas penser avec ce monde. Pourquoi ? Parce que ce que je vis avec Dieu n'a rien à voir avec ce que le monde peut me proposer. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais j'espère que je m'humilie. J'aime bien reprendre l'idée de tout à l'heure. J'espère avoir de la patience et j'espère avoir de la douceur pour me laisser conduire par ce Dieu transcendant qui fait que même si je ne comprends pas comment ça marche, je vais prier et je crois que ma prière va au-delà de cette création, un peu comme dans Apocalypse, on voit qu'au ciel, il y a les prières des saints, la coupe déborde et Jésus se met en action. Et puis ça redescend et tu réponds à la prière pour telle personne, pour telle situation, pour une nation, pour un dirigeant. Pourquoi Dieu nous demande au travers de l'apôtre Paul de prier pour nos dirigeants? Qui nous sommes, nous, pour prier pour nos dirigeants? On ne sait pas qui ils sont vraiment, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur cœur, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de décider, on ne sait pas quels sont les éléments qui sont portés à leur connaissance, on ne connaît pas leurs objectifs, on ne les connaît pas. Un peu, il y a des campagnes présidentielles, mais on ne les connaît pas vraiment. Dieu les connaît. Et donc, nous prions pour les autorités, et ça va au-delà de la création. Ça touche le cœur de Dieu et ça redescend et Dieu répond. Et si on nous pose la question comment ça marche, on dit nous on n'a pas l'équation, on ne sait pas. Mais voilà le résultat. Un Dieu transcendant qui répond aux prières. Par la vue, je vois mon voisin, mon membre de famille, quelqu'un qui est endurci, qui n'accepte pas le Seigneur, tout comme cet homme qui a fait l'éloge de quelque chose d'horrible il y a quelques années, qui publie un livre. Et quelques années après, écrit un autre livre. Il y a des gens, et en plus ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte sa propre conversion, mais il s'aperçoit que lui a été touché par la grâce à 37 ans, et qu'il a un oncle qu'il a tout le temps méprisé, qui était devenu moine, et qui s'était converti à 37 ans, lui aussi, après avoir été dans les années 80, dans les boîtes de nuit, dans les rêves partis, il était homosexuel, il avait une vie de débauché, et à 37 ans, il est devenu moine. Et lui, quelques dizaines d'années après, il se convertit, et son oncle est en train de mourir. Vous voyez, donc, quelque chose de transcendant, quelque chose que Dieu a fait au-delà de... Et sans doute que son oncle a prié pour ce journaliste qui faisait n'importe quoi, il y en a serait-ce que 6 ans. Et qui aujourd'hui ose publier un livre en France et où il raconte sa conversion. Comment c'est possible? Des gens ont prié et il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on croit par la foi parce que notre esprit en nous-mêmes y croit. On a été touché par la grâce, nous aussi. Et ça va au-delà des milliards d'années-lumière ou tout ce que vous voulez. C'est un Dieu vivant qui a le pouvoir sur la mort, qui a le pouvoir sur le péché, qui a le pouvoir sur la création, qui a le pouvoir sur les démons, qui a le pouvoir sur le diable, qui a le pouvoir sur le temps, qui a le pouvoir sur les forces, qui a le pouvoir sur la nature, qui a le pouvoir sur l'incrédulité, qui a le pouvoir sur l'endurcissement. Et parce que nous croyons, on peut être des fois comme le centurion romain, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Eh ben oui, le Seigneur a le pouvoir sur mon incrédulité. Et je crois. Et du coup, je prends des décisions en disant, je veux pas réduire mon christianisme à ce que je suis, à ce que je pense, moi j'ai raison, mon passé, mes erreurs, mes péchés, ma façon de penser, j'ai pas été à l'école, j'ai été trop à l'école, je suis trop cultivé, je suis pas assez cultivé, je suis beau, pas beau, jeune, vieux, homme, femme, gros, maigre, peu importe, je regarde pas au corps, je regarde pas à l'âme. Parce que pour mon épanouissement, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être touché dans mon être le plus profond par l'Esprit de Dieu. Et ce qui fait que je ne vais pas créer une petite idole à l'image de moi-même, et en disant ça c'est Dieu. Non, je viens démuni, nu. Et Dieu ne me reproche pas d'être nu. Qui t'a dit que tu étais nu? Personne n'a mis cette loi en disant « ça va pas ». C'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, et je terminerai là vraiment là-dessus, nous sommes le temple du Saint-Esprit, vous êtes d'accord avec ça. Rappelez-vous la dédicace du temple de Salomon. Salomon va donc... Alors c'est là où il y a quelque chose d'intéressant. Je vous ai parlé de l'immanence où Dieu peut se montrer d'une certaine manière et de la transcendance où on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Pourtant Dieu a décidé de qu'on construise une maison. Vous voyez? Parce que vous pouvez me dire, mais du coup le temple de Dieu c'est pareil que de construire une idole finalement. S'il faut aller... La Shekinah, c'était que sur le temple. Où est la transcendance de Dieu? Mais regardez ce que Salomon a bien réalisé. En 2 Chroniques 2, verset 4, il dit ceci. « La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. » Donc qu'est-ce qu'on voit ? Il veut honorer Dieu, et puis c'est l'ordre de Dieu, c'est Dieu qui a demandé de bâtir de toute façon ce temple. Mais donc il dit, voilà, la maison elle doit être grande. Pour Dieu, elle n'est pas grande, hein, on est d'accord. Mais il dit, voilà, elle est grande par rapport à ce que nous, nous évaluons, parce que Dieu, il est énorme. Mais regardez, le verset suivant, verset 5, après avoir parlé de l'immanence, Dieu qui va se manifester dans une maison, dans un temple, verset 5, « Mais qui aurait le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque le ciel du ciel ne peut le contenir ?» C'est beau cette expression, « le ciel du ciel ». Et qui serais-je pour lui bâtir une maison si ce n'était pour offrir de l'encens devant lui ? C'est-à-dire que Salomon avait compris que Dieu était quand même transcendant et que le temple, c'était en fait un moyen matériel pour l'homme de pouvoir adorer. Le temple, c'était pour l'homme en réalité. Pour que l'homme, par des moyens matériels agréés par Dieu, puisse, d'une certaine manière, vivre une forme de transcendance en attendant l'effusion du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et aujourd'hui, nous pouvons adorer en esprit et en vérité. Et c'est pour ça que cet esprit qui est en moi, qui est un esprit transcendant, va au-delà de ce que je peux appréhender. Je ne sais pas comment ça marche, mais je le vis. Ce qui fait que dans mon âme, je vois la présence de Dieu, il y a une immanence de Dieu en moi. Le Dieu transcendant dans l'esprit touche mon âme et change ma façon de penser, change mes émotions. Et ça, ça devient un Dieu immanent en moi. Pour le dire autrement, je l'expérimente. Et ensuite, je le confesse, l'immanence pour les autres. J'utilise ma vie, je me déplace, je fais des choix qui fait que Dieu en moi, espoir de gloire, sera manifesté par ceux qui me regardent. Donc non seulement j'ai une harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps, mais ensuite ma vie sur la terre sera en harmonie avec un plan que je ne vois pas, d'un Dieu que je ne vois pas. Et ça s'appelle mon histoire sur cette terre au service de Dieu, d'un Dieu transcendant. Ce qui fait que ma biographie, ce ne sera pas uniquement « il a fait ci, il a fait ça, il était comme ci, il était comme ça ». Il a fait ci dans son corps, voilà, on peut l'attester. On le connaissait un peu dans son âme, il était comme ci, il était comme ça. Mais par contre, ce qui est le plus important, même si on ne peut pas négliger les deux premières parties, Dieu saura ce que j'ai vécu avec lui dans mon esprit et c'est ça qui aura sa récompense. Parce que c'est là qu'il y aura la foi. C'est là que Christ en moi aura été fortifié et glorifié. Et ça, c'est possible parce que, selon Hébreux 4, la parole de Dieu sépare ce qui est de l'âme et de l'esprit. Et ça me permet de discerner ce Dieu transcendant.